11h-12h30. RTL vous régale. Jean-Michel Zeka.
Bonjour à tous, très bonne fin de matinée. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Merci d'être avec nous. RTL vous régale en direct jusqu'à midi et demi. Nous allons continuer notre tour de France des régions, vous emmener, vous faire découvrir, voire redécouvrir ces produits, ces terroirs qu'on aime. Nous allons aller à la rencontre des producteurs, des artisans qui sont la fierté de toute une région. Direction la Picardie aujourd'hui. Les macarons d'Amiens, l'agneau de présalé, la salicorne, le gâteau battu, la ficelle picarde, j'en passe et des meilleurs. Quant à ces deux-là, ils s'affronteront pour une nouvelle semaine de défi frigo aux alentours de midi. C'est une guerre sans merci qui fait rage depuis le début de cet été. À ma gauche, l'élégance incarnée, l'élégance faite femme. Elle remet ses victoires en jeu chaque fin de semaine.
Oui, mais c'est
mais
fini.
Luana Belmondo.
C'est fini. Qui a force d'élégance.
Qui a force d'élégance.
Elle perd.
C'est peut-être perdu. On dirait une phrase de Jean-Alphonse Richard.
C'est ça.
À force d'élégance, elle s'en est même perdue.
Voilà. Et donc maintenant, c'est l'élégance, je ne la connais plus.
Voilà. Mais grâce à cela, grâce à cette élégance, je rappelle que Jean-Sébastien Petit de Mange mène trois semaines à deux. Ce qui veut dire qu'en cas de victoire de cet homme cette semaine, l'été serait plié.
Oui, sauf que on doit quand même à l'honnêteté dire que l'élégance de Luana Belmondo, qui est légendaire, était quand même un peu vile vendredi parce qu'elle était persuadée gagner. Elle était convaincue de gagner et paf le chien quoi.
Flip-flap la girafe. Je vous rappelle le principe du défi frigo. Vous nous donnez un ingrédient de votre frigo et mes deux camarades de jeu ont 3 minutes, 3, 4 minutes, le temps des infos de midi pour vous proposer une recette originale.
J'étais toujours très mauvaise en calcul, il faut dire la vérité. Les chiffres, c'est pas vraiment pour moi.
Vous serez peut-être meilleur sur l'ingrédient du jour que nous connaîtrons tout à l'heure à midi. À gagner, attention, une montre RTL, un guide du routard offert par les éditions Hachette, mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, nous démarrons la semaine en vous offrant également pour le défi frigo un séjour de 3 nuits pour 2 personnes offert par Paris Je T'aime à l'hôtel Odéon au cœur du quartier latin. 3210 par téléphone pour jouer avec nous ou vous nous envoyez simplement un SMS en envoyant le mot régal suivi de l'ingrédient de votre frigo au 64 900. Nous sommes en Picardie, c'est-à-dire une des régions les plus connues de France.
Bon, on ne va pas dire ça.
Voilà. C'est bon, je me fais un peu l'avocat du diable.
Ah, c'est ça.
C'est pas forcément la plus connue.
On va dire méconnue.
Avant cela, avant la Picardie, il y avait quoi ? Il y avait l'Oise, il y avait... On disait quoi avant ? Moi, je m'y perds dans cette nomenclature.
Ah bah la Picardie.
Non, mais il y a une nouvelle nomenclature.
Oui,
là.
Ça s'appelle les Hauts-de-France maintenant.
Voilà, c'est les Hauts-de-France.
Voilà.
D'accord. Mais donc nous, on est resté sous l'Ancien Régime.
Voilà, c'est ça.
C'est-à-dire, moi, belge d'origine, je ne comprends plus rien. C'est-à-dire, il va falloir que vous m'expliquiez un jour.
Bah, hein. Si vous voulez, nous, on comprend rien.
Ce qui me rassure. Et ce qui est assez normal. On se retrouve dans un instant sur RTL. Nous sommes en direct. RTL vous régale jusqu'à midi et demi.
11h, 12h30. RTL vous régale.
Allez, on vous emmène en Picardie aujourd'hui. La Picardie, on le disait avec Jean-Sébastien et Luana, c'est pas, on va être honnête, c'est pas forcément la région la plus connue de France. Il y a une belle formule d'ailleurs, Terra Incognita.
Oui, c'est une des dernières Terra Incognita qui subsiste en France. Alors, évidemment, il y a des évidences que tout le monde connaît, qui s'imposent à l'image de la baie de Somme, qui est cette vaste ouverture que la Manche envahit deux fois par jour. Vous avez d'un côté Saint-Valery, de l'autre le Crotoy, et partout, une des plus belles baies au monde. À proximité, vous avez le parc ornithologique du Marcanterre, qui est un véritable sanctuaire sur une des routes migratoires les plus empruntées par les oiseaux. Autre évidence, c'est Amiens, la capitale de cette Picardie, une ville qui fut symbole de paix. La paix d'Amiens, signée en 1802, qui réconciliait l'Espagne, les Pays-Bas, l'Angleterre, la France. Et puis ça a été aussi le symbole des drames de deux guerres mondiales. Mais qui est parvenu à préserver le chef-d'œuvre absolu du gothique, à savoir sa cathédrale. C'est la plus grande cathédrale de France. C'est la figure de proue de la Picardie, où on compte également des abbayes en pagaille parmi les plus belles, des églises rurales, des châteaux absolument fastueux dans lesquels des pages importantes de l'histoire de France se sont écrites. Il suffit d'évoquer Chantilly, qui a été reconstruit par quelqu'un que vous aimez énormément, Jean-Michel, le connétable.
Oh, bon, alors ça. Ah,
ben. Anne de Montmorency, puisque ça nous a Anne, manqué. À l'époque, était un prénom masculin. Et puis, je pourrais vous parler de Doullens, qu'on connaît beaucoup moins, avec sa citadelle qui date de François Ier, qui est un peu du Vauban, 150 ans avant Vauban, de Guise et de son familistère qui est extraordinaire. Et si je vous parle de Saint-Gobain, c'est un des noms les plus connus sur la planète. Saint-Gobain est en Picardie parce que ça n'est pas qu'une marque, c'est également le nom d'une commune. Et il faut savoir que Colbert y a installé un jour la manufacture royale des glaces. Louis XIV était un dingue de miroirs. Il suffit de voir le nombre de miroirs qu'il y a dans la galerie des glaces. Or, seuls les verriers de Murano connaissaient le secret du miroir. Et Colbert a envoyé des espions du côté de Venise
pour aller
arracher aux Italiens le secret de ces miroirs.
Alors justement, Luana, vous connaissez mieux les verriers de Murano
que
la Picardie, on est d'accord.
Non, moi la Picardie, je la connais quand même.
Mais c'est la baie de Somme, quoi.
Oh, bah, alors, Saint-Valéry, c'est très très beau.
C'est très beau, mais je sais que vous connaissez, mais juste la baie de Somme.
Je connais surtout la baie de Somme, mais je l'ai connue avant qu'elle devienne un peu à la mode, parce qu'en ce moment, on en parle beaucoup, les magazines déco, on fait plein de reportages. Mais mes amis Pascal et Marianne, ils se sont installés dans leur maison de vacances il y a 25 ans, et donc j'ai pu la connaître et l'admirer et la vivre il y a 25 ans. Alors, déjà, c'est une ville où tout est bon vivre. C'est-à-dire, on se promène, vous savez, sur les quais, on regarde ces marais qui sont magnifiques. Parfois, à marée basse, on va voir justement les fameuses agneaux de près bruter les herbes. Parfois, au loin, on peut voir aussi des phoques qui se baladent. Alors, c'est une ville vraiment colorée, fleurie. Il faut vraiment, voilà, c'est promener dans le quartier des pêcheurs. Alors, une petite promenade, elle n'est pas très grande, donc c'est une ville médiévale. Allez vraiment voir la vue panoramique sur la baie de Somme, sur la tour Jeanne d'Arc. Continuez à vous balader, à flâner dans les ruelles fleuries de la ville, dans les chemins, ils sont en galets, silex, vous voyez des murailles. C'est un voyage vraiment dans le temps. Arrêtez-vous à l'herbarium. Alors, c'est situé à l'intérieur des jardins d'un hôpital. Et encore aujourd'hui, on cultive, comme à l'époque médiévale, en fait, vous savez, les plantes médicales. Et
c'est vraiment... Médicinales, ouais.
Médicinales, excusez-moi. Et c'est vraiment très sympa. Le marché du dimanche matin... À l'époque, il n'y avait que des producteurs directs. Un peu moins en ce moment, mais on peut quand même trouver encore des bons producteurs comme ceux des endives. L'endive est super connue dans cette région. Et les premières carottes de terre, des sables, je les ai mangées à Saint-Valéry, parce que maintenant c'est à la mode, mais avant je les ai mangées qui là-bas. Baie de Somme, qui dit Baie de Somme, dit aussi pêche. Et là-bas, le roi de la pêche, c'est un seul, c'est Delaby. 8 générations de marins pêcheurs. Alors maintenant, la boutique s'est déplacée à Cailleux. C'est une vente directe, une pêche respectueuse. Sa maman Catherine, c'est la première qui m'a appris que je pouvais remplacer pour faire un carpaccio de beurre.
Carpaccio de bar.
De bar.
Oui. Parce qu'un carpaccio de beurre, vu la température,
un carpaccio de beurre, c'est une tartine.
Ça serait du beurre fondu. Alors, faire remplacer pour mon carpaccio de beurre, que le bar... De bar. Tout va bien.
Définitivement. Hein. Voilà.
Non, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va le remplacer par du maigre.
Voilà, c'est ça que je voulais dire. On pouvait le remplacer par du maigre. Voilà. Parce que le prix est beaucoup, ça coûte la moitié. J'ai goûté pour la première fois en saison, c'est pas la saison à ce moment, des lamelles fraîches. Elle m'a ouvert les Saint-Jacques, elle m'a fait goûter une lamelle des Saint-Jacques. Ça pulsait encore, elle était vivante. Et là, ce petit goût vanillé qui se développe en bouche, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il y a aussi des crustacés. Mais c'est vraiment une super adresse, une tradition familiale. Leur fils, Pierre-Alain, il a lancé un restaurant, le Maturin, Alors là, c'est la carte, elle change tous les jours parce qu'en fait, c'est la pêche que la famille lui amène, donc son papa et son frère, et il va sublimer d'une façon très instinctive, franche, les produits de l'arrivage. On peut manger des ceviches, des barres au citron, caviar et baies rouges, le turbo rôti au thym et au citron avec une émulsion des gingembre et citron vert. Je peux vous dire que c'était génial, les coques au chorizo. Après, il y a aussi l'homard bleu qui est cuit à la plancha. Il a besoin de rien, juste des petits légumes. Et puis voilà. Puis vous pouvez aussi aller à l'épilote pour vous faire plaisir avec des frites et des moules.
On ne va pas revenir là-dessus.
De toute façon, je savais que vous alliez me faire tous vos gestes là et qu'il fallait que je fasse un condensé des 100 Valérie.
Non, c'est pas le problème.
C'est-à-dire que s'il y en a 100 des Valérie, ça fait beaucoup.
Mais avec du beurre.
Vous promenez dans les rouelles, voilà. C'est des toutes petites roues. Hein.
On va découvrir quelques-unes de ces surprises. Et il y en a une de taille qu'on ne connaît pas forcément. C'est que moi, j'aime bien boire du champagne Picard. Alors là, vous me regardez avec des yeux ronds comme des billes. Mais ouais. Effectivement, il y a du champagne en Picardie dans l'Aisne, dans la vallée de la Marne. On cultive du pinot meunier, on cultive sur des sols argilo-calcaires, on cultive du pinot noir et du chardonnay. Et on fait du champagne car il y a de la vigne, car la route touristique du champagne de l'Aisne est très connue et que on peut trouver d'excellents champagnes de vignerons en Picardie, dans l'Aisne. Et ça peut être une surprise.
RTL vous régale. Avec Jean-Michel Zeka.
Et avec Jean-Sébastien et Loana, nous baladons en Picardie en ce début de semaine, en cœur de ce mois d'août sur RTL. Alors, chaque mois de juin, il y a évidemment le début d'une saison qui est d'importance en Picardie, c'est l'agneau de présalé.
J'aime bien quand vous annoncez ça.
Mais c'est vrai. La saison de l'agneau.
Voilà.
Ça commence. Non, mais je connais particulièrement l'agneau du Mont-Saint-Michel.
Voilà, c'est les deux appellations d'origine protégée. En ce qui concerne l'agneau de présalé de la baie de Somme, effectivement, est commercialisé à partir du mois de juin. Et il faut savoir pourquoi il est commercialisé à partir du mois de juin, parce qu'il faut qu'il ait pâturé au moins 75 jours avant d'être commercialisé. Donc ça donne le mois de mars. Avant, c'est un peu compliqué pour les amener dans les molières. Les molières qui sont ces pâtures en zone humide, et c'est ce qui donne cet agneau de présalé avec ce goût si particulier de la flore maritime. Allié au déplacement, tout ça favorise la qualité de la viande. Le fait que les agneaux soient mobiles dans ces zones maritimes fait que la viande a une belle couleur rouge, elle a un grain très marqué, elle a une saveur très caractéristique. Alors le pâturage de ces présalés, c'est leur alimentation principale. Il y a évidemment quelques compléments, mais peu importe. La baie de Somme, on est sur le littoral Picard, ça a été reconnu comme parc naturel régional le 13 février dernier. Et ça fait partie de ces endroits qui sont d'une grande richesse écologique, autant ornithologique que floristique. Et ces molières donnent une flore caractéristique qui permet d'avoir cette viande qu'on connaît depuis le 15e siècle. Il faut savoir que l'élevage de moutons dans la baie de Somme remonte assez loin. Au 18e, les moutons de la baie de Somme bénéficiaient d'une reconnaissance sur les plus grandes tables déjà à Paris, mais ça n'est qu'en 1905, au début du 20e siècle, que l'élevage de présalé apparaît, et c'était du côté de Saint-Valery-sur-Somme.
Alors c'est une évidence forcément, on vous en parle, de l'agneau de présalé. Ça aurait pu être aussi la salicorne par exemple.
Oui. En fait, les herbes de la mer, ils sont très utilisés dans cette région et surtout à Saint-Valery. Alors la salicorne, on l'appelle aussi l'haricot de la mer. Alors ce n'est pas une algue, très souvent on confond une algue. Hein. Non, elle est cultivée dans les marais salants. Elle est riche en eau, en fibres. Elle a un goût assez salé mais iodé. C'est très bon cuit en persillade, par exemple. Elle va accompagner un poisson, une viande. Elle se mange aussi crue. Très souvent, on n'y pense pas, mais on peut la rajouter en salade. Ou alors, pourquoi pas, on fait un poêlé des coques, des coteaux, des crevettes, et on la met au dernier moment dedans. Vraiment, ça va développer ce côté iodé. Mais dans la baie de Somme, il y a aussi une autre variété d'herbe qu'on connaît un peu moins, qui s'appelle les oreilles des cochons. Connaissez-vous ça ?
Les oreilles de cochon, c'est une herbe.
Oui, ça s'appelle aussi aster. C'est une plante qui pousse au bord de la mer, dans les marais salants, et c'est l'épinard, cette fois-ci. On passe des haricots de la mer à l'épinard de la mer. Alors, elle est toujours cueillie avant la levée du soleil, et une fois qu'on l'a blanchie, on la fait juste revenir dans une noisette de beurre avec de l'ail, des échalotes, un peu d'une pointe de noix de muscade. Moi, je rajoute un peu de mascarpone, et là, avec un filet de veau ou des côtelettes d'agneau présalées et bien grillées, bah c'est vraiment sublime.
La bonne nouvelle, c'est que c'est pas un voyage en Picardie qui va exploser le compteur de la Fuego. Ça, c'est déjà la bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on va y mettre dans le coffre de cette voiture ? Voilà. La Fuego d'RTL vous régale. On vous dit tout dans un instant sur RTL.
RTL vous régale jusqu'à 12h30. Jean-Michel Zeka.
Le petit panier d'RTL vous régale, qui s'est rempli depuis le début de cet été, d'autant de spécialités que de régions traversées. Nous sommes en Picardie, nous allons faire une première halte à Amiens.
Oui, si vous voulez.
Ça me plairait bien, c'est le macaron d'Amiens. Alors ça, c'est un mythe.
Attendez, en plus, ça permet de rendre hommage à des gens importants. Le macaron d'Amiens, qui est une délicieuse spécialité de la région Picarde, dont la renommée remonte au XVIe siècle, une recette introduite d'Italie par Catherine Médicis, mais le fait que les amandes valencias soient importées surtout d'Espagne font que ce macaron est connu aujourd'hui dans le monde entier. C'est une des spécialités régionales les plus importantes. À l'origine de la réputation de la maison Trogneux, la recette du macaron n'a pas changé depuis 1872. Amandes valencia, du sucre, du miel, des blancs d'œufs, de l'huile d'amande douce et d'amande amère. Aucun conservateur, aucun colorant, ce qui fait que ce sont des macarons qu'il faut absolument consommer en moins d'une semaine pour qu'ils soient excellents. Et c'est, vous savez, ça fait partie, il y a plusieurs sortes de macarons. Vous avez les macarons secs, très durs, comme ceux de Cormerie, comme ceux de Nancy. Vous avez ce qu'on a inventé, ce qu'on a appelé le macaron parisien, bon, c'est du macaron si on veut. Et puis vous avez ces macarons.
Ou l'art de se faire des amis en plein mois d'août.
On prend un risque dans cette émission.
Pas du tout.
Allez, on continue.
Macaron concombre.
Voilà. Ça, c'est,
et puis vous avez ces macarons moelleux, qui sont les macarons d'Amiens. C'est un bonheur.
Alors, vous savez que Jean-Sébastien, Louana et moi finirons jurés. Dans une compétition très importante, qui est pâté croûte du monde. Le meilleur pâté croûte du monde.
Bien sûr.
C'est clair.
Et là, nous rentrons de Chartres.
Oui.
Autant vous dire que du pâté de Chartres, on en a mangé.
Qu'est-ce qu'on a
mangé?
Mais
je voudrais qu'on touche un petit mot du pâté croûte d'Amiens.
Le pâté croûte d'Amiens, c'est du pâté canard, du pâté au canard, ce qui était une recette qui date des années 1640, spécialité autrefois célébrée par l'âme de Sévigné, puisqu'elle en a écrit des pages entières. Pâté en croûte à base de canard. Il faut faire la pâte la veille, une pâte classique, et puis ensuite, vous avez ce canard qui est mélangé avec quelques autres viandes, que ce soit de porc, du foie de volaille, un peu de lapin, du champignon.
Il y a toujours un peu d'alcool,
petite goutte de calvados, si vous voulez, un joli mélange d'épices. Au départ, normalement, ça se fait, la recette originale se fait avec un canard entier. Bon, ça, on a un peu changé de braquet, c'est pas plus mal, mais c'est absolument divin, le pâté d'Amiens.
On le sert avec des haricots ? Non, pas du tout.
On pourrait. C'est... Rien alors, nous fait peur en même temps.
C'est lourd, pâté croûte, haricots de soisson, ça. Oh, c'est,
et bim
c'est... On a vécu pire.
C'est pas. Surtout que c'est un haricot blanc plutôt gros. Mais la légende veut qu'il ait quand même sauvé la population de soisson de la famine pendant la guerre de 100 ans, puisqu'il y avait une épidémie de peste. Pas seulement la guerre, épidémie de peste qui ravageait la Picardie à l'époque. Du coup, à Soissons, on s'est enfui et puis on a perdu des graines. Vous savez, quand les Soissonnais sont venus, ils ont eu la surprise de découvrir un immense champ de fèves et ça a permis de nourrir la population et de les sauver
de la famine.
Ah, ça aussi, l'une des spécialités de Loana Belmondo dans cette émission, cet été, c'est d'affiner les fromages qu'on ramène dans le coffre de la voiture.
Et
vous n'allez pas faire exception à la règle en Picardie.
Non, on va continuer. D'ailleurs, ça va la voiture, ça sent pas trop fort la dernière fois. Bon, bref. Alors, c'est le fromage des Brais qui porte le nom de son pays d'origine. Alors, j'adore. C'est vraiment bon. Il faut vraiment qu'on le mette dans notre coffre des voitures. Pourquoi ? C'est un fromage qui est fait à partir de lait cru de vache, à pâte molle, assez crémeux, un goût fruité, croûte fleurie, texture granuleuse, je dirais. Et sa particularité, c'est quoi ? C'est que c'est un fromage double crème, car on rajoute au lait de la crème aussi, et c'est là qu'on a cette onctuosité. Mais surtout, c'est quand on l'ouvre, hein, à l'intérieur, on va avoir des petits grains. C'est des grains de lin, et c'est ça qui donne ce goût un peu des céréales grillées. C'est vraiment... c'est très très bon.
Dans le coffre, c'est un bonheur.
Mais là, je vous fais aussi un petit cadeau.
Oui. Hein.
Là, ça sent pas trop fort. C'est le gâteau battu. Là, c'est... il ressemble, vous savez quoi, hein, en Italie, on a le pandoro pendant les fêtes de Noël. Oui. On a le panettone avec les fruits confits. Et si, on a aussi le pandoro quand même.
Oui, non, d'accord. Non, mais non,
ça ne se compare pas à un panettone, mais plus à un pandoro.
Non, mais je dis la forme pourrait nous... Merci,
d'accord.
Monsieur Petit Démange. La forme pourrait nous rappeler donc le pandoro. Qu'il est beaucoup moins bon parce que le gâteau battu, c'est une sorte de brioche. La croûte, elle est bien brune. Il est très, très, très riche en beurre et en œuf. La pâte, vous voyez, elle est jaune, dorée, très moelleuse. Il a cette forme de toque. C'est une fabrication artisanale. C'est une richesse incroyable. C'est réveillé le matin chez mes amis à Saint-Valery avec le gâteau battu. Je peux vous dire que la journée démarre d'une façon exceptionnelle.
C'est Ginette et Jean-Jacques. Évidemment, les amis, nous faisons le tour de France des
et
amis
si
de Loana.
Et s'il nous en reste, on peut mettre un peu de fromage des Brais par-dessus.
Bien sûr,
c'est
vous
pas
me ferez
mal.
Plaisir un jour, vous ramènerez une cargaison d'arbres magique dans le corps de la voiture. On peut ramener de la bière de Picardie, évidemment, Jean-Sébastien.
Oui, il y a pas mal de brasseries un peu partout. On en a visité dans le Nord. Vous avez notamment une à Péronne qui existe depuis longtemps, puisque c'est une brasserie qui a été fondée en 1926. C'est la brasserie de Clercq qui maintient l'art ancestral du brassage, où on fait encore de belles bières de garde. Et puis comme ça, vous en avez dans les trois départements de Picardie. Ça fait partie des grandes traditions qui se maintiennent, qui renaissent. Il y a des microbrasseries qui naissent de plus en plus un peu partout.
Loana, dans un instant, le choix de Madame Loana, c'est de l'agneau.
Bah oui, forcément.
Une recette à base de côtelettes d'agneau avec une salade de...
Je
ne vous en dis pas
plus. Ah, je l'ai dit, mince.
Le choix de Loana dans un instant. La recette sera sur le site de notre partenaire Cuisine AZ. Ne bougez pas, on vous explique tout dans un instant.
Bonne journée et bel été sur RTL.
RTL, toujours avec vous. 11h-12h30.
RTL vous régale.
Chemin faisant, RTL vous régale. Cet été vous emmène en Picardie en ce début de semaine où le choix de Loana s'est porté tout naturellement sur de l'agneau.
Oui.
Qu'est-ce qu'on prépare ?
J'ai hésité, hein. Je voulais faire la bacio brodettato, vous savez.
C'est romain, ça.
C'est romain. Mais bon, il fait un peu chaud, donc on le fera une autre fois.
On va faire un truc plus frais, avec une salade de fenouil et d'orange.
Ça vous dit ?
Ça me tente bien, ça.
Alors, on va commencer par les côtelettes d'agneau. Alors, normalement, les côtelettes d'agneau, elles sont vraiment très douces, très fines. La chair, elle n'a pas besoin d'être travaillée trop.
C'est vous, en fait.
J'avais oublié, c'est le début de semaine, vous venez reposer d'un bon week-end dans votre piscine, c'est ça. Ok, donc on va les aplatir.
Olympique.
Mais pourquoi c'est caché ?
La recette.
On y va. J'essaie de la dire. Donc, on prend nos côtelettes d'agneau. On les aplatit un tout petit peu, parce que comme on ne va pas trop les cuire, il faut qu'elles soient bien rosées. On les rabaisse entre vous. Vous savez, vous prenez deux feuilles de papier sulfurisé. Et puis, vraiment, moi, parfois, je le fais vraiment avec la main. Ça va toute seule. On va faire, en fait, dans un petit bol, on va mettre un peu d'huile d'olive, un peu de miel et quelques gouttes de citron. Vous allez bien mélanger le tout et vous allez badigeonner avec ça les côtelettes d'agneau. Pendant ce temps-là, vous allez préparer une panure. Mais une panure qu'elle va être faite avec quoi ? Avec des amandes, des pistaches, un peu de zeste d'orange ou de citron et des herbes de votre choix. Moi, avec ça, j'ai mis des lassauges. Vous mettez du gros sel parce que quand on va mixer, le gros sel va vraiment bien casser les fibres de tout, des amandes, va vous aider à bien avoir une panure légère. Mais comme vous voyez, il n'y a pas de pain. Vous allez maintenant prendre votre côtelette que vous avez déjà badigeonnée avec l'huile, le miel et un peu de citron. Vous les passez dans cette panure que vous venez défaire et vous les faites revenir tout doucement. Alors, vous pouvez les faire revenir aussi dans une plancha si vous voulez. Moi, je les fais à la poêle avec un peu d'huile d'olive. Je rajoute à côté des herbes, des gousses d'ail entières, en chemise. Je rajoute du thym, tous les herbes. Moi, j'adore mélanger les herbes. Et puis, à côté, on a notre salade de fenouil. Elle est fraîche. C'est une salade, on la mange surtout en Sicile. Ce sont des fenouils. On va prendre...
Que
donc,
vous découpez à la mandoline.
On les découpe très finement à la mandoline. On va faire des suprêmes d'orange. On va les mélanger au fenouil.
Pour rappeler ce que c'est qu'un suprême d'orange, Louana.
C'est-à-dire qu'on va prendre l'orange, on va enlever la peau et on va essayer de prendre la chair en coupant, en enlevant la peau.
La partie blanche qui est amère.
La partie blanche, pas seulement, mais aussi la peau qui enveloppe chaque bout d'orange. Donc, il faut qu'il reste que la chair. Donc on met tout ça ensemble. Olive noire. Moi, je rajoute aussi des oignons rouges. Alors, pour qu'ils soient moins forts, je les fais tremper dans un bol d'eau froide pendant une trentaine de minutes. Mais je les mets à cru. Olive noire, vous pouvez rajouter, si vous voulez, un peu de capre. Ça donne un côté un peu plus salé. Mais bon, ça suffit. Huile d'olive, vous mélangez le tout. Et donc, vous allez à côté cet agneau qui est assez croustillant, un croustillant un peu différent parce que vous avez utilisé des amandes, des pistaches. C'est frais et cette salade vraiment de fraîcheur.
Une belle recette d'été, ça, disponible sur le site de notre partenaire Cuisine AZ.
Et donc, on fait des suprêmes d'orange. Il faut rappeler aussi ce que c'est qu'une mandoline.
Il a osé.
Essayez de faire.
On ne le sait pas assez, mais le champignon de Paris est une spécialité
picarde.
Et nous vous en parlons dans un instant sur RTL.
RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka.
La Picardie au menu d'RTL vous régale aujourd'hui sur RTL et dans cette magnifique Picardie, une spécialité
qu'on n'imagine pas.
Qu'on n'imagine pas forcément parce qu'elle s'appelle champignon de
Paris.
Produit délicat. Alors,
qu'est-ce qu'elle fait en Picardie ?
On va vous expliquer, Louana. Installez-vous confortablement, ouais. Le spectacle va commencer.
Vous avez vu ce que j'ai, hein ?
Alors, éventez-vous, vous avez raison.
Le champignon de Paris apparaît au 19e siècle à Paris. Ça, on est d'accord. Ça apparaît. Et pourquoi à Paris ? Parce qu'il y a des carrières immenses où on a pris des pierres pour construire ce qu'il y avait au-dessus. Et donc, dans ces carrières, bien, on a mis au point une culture qui a un succès absolument considérable assez rapidement. C'est, on dénote quand même 300 carrières en activité en 1883, c'est-à-dire à peu près 80 ans après le début de cette culture sur compost du champignon de Paris. C'est considérable. Il y a 5 champignonnières en 1883 dans Paris qui produisent des champignons. Et puis bon, ce compost avait un élément essentiel, c'est du crottin de cheval. C'était indispensable à cela. Or, la disparition du cheval à Paris et sur la banlieue au profit de la voiture, fait disparaître cette culture puisqu'il n'y avait plus la matière première pour faire du compost. Et du coup, la culture du champignon de Paris est partie dans deux endroits où il y avait des carrières et des conditions favorables pour les faire, c'est-à-dire en Touraine et en Picardie, où il y a également des carrières, des chevaux et des conditions idéales, parce qu'il faut que ces carrières soient à température constante. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, la Picardie est devenue la première région productrice de champignons frais en France.
Et on va en parler tout de suite avec Dany Delinière. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur RTL.
Ça va bien ?
Ça va pas mal, et vous ?
Bah, très bien, très bien.
Alors, vous êtes producteur de champignons de Paris à Teufles, c'est ça, hein ?
C'est exactement ça. Et nous avons deux sites de production. Un qui est à la sortie numéro 3 de la A28 et un site de Teufles qui nous a permis de démarrer le champignon bio.
Parce qu'on parle de champignons bio, évidemment.
Exactement.
Alors, qu'est-ce qu'on appelle justement du champignon bio ?
Parce qu'il y a... C'est-à-dire... Excusez-moi. Le champignon bio, il est fait sur un substrat qui est complètement bio. Ouais. Les pailles sont récupérées par nos soins dans la plupart des cas. D'accord. Et ensuite sont envoyées chez quelqu'un qui fait le compost et qui le pasteurise et qui ajoute du fumier de cheval, qui ajoute ce que vous venez de dire auparavant, quoi. Et donc c'est homologué par un groupe qui voilà.
C'est un produit très délicat qu'on fait pousser dans des conditions très particulières aussi.
C'est exactement ça. C'est quelque chose qui est très très difficile à amener. C'est quelque chose qu'on a vite loupé parce que on peut avoir manqué quelque chose. Mais le fait d'avoir du bio, parfois, ça nous permet d'avoir des pathogènes qui nous perturbent un tout petit peu. Mais dans l'ensemble, on a une parfaite maîtrise de système de pousse, quoi. Ça va bien.
Vous pouvez en parler. Vous récoltez environ 250 tonnes de champignons par an. Et ce qui est bien, c'est quelque chose dont on parle beaucoup dans cette émission, c'est qu'ils sont distribués et donc forcément consommés et vendus dans ce qu'on appelle le circuit court.
La plupart est distribué dans le circuit court. Les restaurateurs, des magasins de proximité, aujourd'hui on a pas mal de maraîchers qui s'intéressent aussi aux produits. On a une grande métropole quand même à Paris qui nous avale une grosse partie de la quantité, des grands groupes de distribution bio et puis des distributeurs très spécialisés dans le bio, quoi. Et ça nous permet de vendre une très grande partie de ces produits sur Paris, sur le nord de la France, tels que Lille, l'Homme. Ensuite, on dégage pas mal de marchandises aussi sur la région Bretagne, Rennes,
c'est dans toute
région
la France.
Nantaise.
Bien sûr, bien sûr. Ce champignon de Paris, Dany, qu'on cuisine, évidemment, on ne se rend pas toujours compte quand on achète une barquette de champignons de Paris, le travail qu'il y a en amont, hein, votre boulot à vous. Vous les cuisinez comment, vous ?
Pour les cuisiner, il y a des choses qui sont très très simples. Bon, vous avez la spécialité qui est la ficelle picarde. Dans le coin, je crois qu'il faut pas. Elle est très très reconnue. Après, vous avez des trucs en soupe pour tout ce qui est trucs divers, quoi. Et des tartes aux champignons, en omelette, en accompagnement de viande. Et puis un truc qu'on découvre beaucoup actuellement, c'est l'apéritif avec le champignon de Paris bio, puisque vous ne l'épluchez pas. Vous cassez l'extrémité du pied, vous avez la collerette du carpophore du champignon, vous la remplissez parfois d'un fromage ou... tel que un fromage de chèvre fines herbes ou autre, selon vos goûts, et vous faites l'apéro avec ça, en cru ou en cuit, même cuit pendant 10 minutes.
Dany Delinière, producteur de champignons de Paris à Teufles, mille merci d'être passé dans RTL Vous Régale, nous faire un petit coucou, c'est sympa d'être venu. On vous souhaite un bon mois d'août.
Vous aussi, bonne fin de vacances et puis bonne continuation.
C'est gentil, merci beaucoup.
Merci à tous.
La Picardie au programme et nous sommes de retour dans quelques instants avec le défi frigo de ce début de semaine.
11h-12h30. RTL vous régale.
Dans un instant, le défi frigo de Nathalie de Rochefort en Charente-Maritime. Les amis, Jean-Sébastien Louana, 4 minutes, une recette originale chacun à base de fraises. Vous écoutez RTL ? Il est midi.
11h-12h30.
RTL vous régale. Jean-Michel Zeka.
C'est l'heure d'accueillir Nathalie. Elle est à Rochefort. Nathalie, bonjour.
Bonjour Jean-Michel.
Je vous avoue qu'on était un peu pris par le temps juste avant l'info de midi. Donc j'ai annoncé pour vous que vous aviez de la fraise et c'est une bonne idée. Parce que cuisiner la fraise, finalement, à part en faire des soupes, c'est quand même pas le truc le plus facile. C'est un défi frigo de début de semaine dans lequel on va rentrer dans le vif du sujet immédiatement. Vous auriez fait quoi, vous, avec vos fraises, à part les manger comme ça, avec un peu de sucre ou de la menthe ou du citron?
Eh ben voilà, salade de fruits de la menthe, tout simplement.
Mais c'est très bon.
Voilà.
Oui.
C'est parfait, une salade de fruits.
Oui.
Alors, parlons de salade de fruits, ce qui va se passer n'est pas joli, joli. Hein, parce qu'on a deux antagonistes qui se mènent une lutte... Sans merci.
Oh bah c'est pas une lutte, c'est moi, je perds, allez, mettons un jeu, moi. C'est fini, ça. Hein.
Non, alors, je propose que si d'aventure, vous deviez mener en fin de semaine, vous arrêtiez de remettre en jeu quoi que ce soit.
Ah oui. non, mais c'est hors question.
Jean-Sébastien, Luana, 4 minutes pour deux recettes originales à base de fraises. Nathalie, vous avez envie de commencer avec qui?
Avec Luana.
C'est parti.
Alors... Nathalie, en fait, moi, je trouvais que l'idée... Il fait chaud en ce moment, non?
Ah bon?
Vous trouvez pas?
C'est pas vrai.
Même non. Très, très chaud. Donc, je trouve que l'idée...
Luana mène l'enquête.
Je trouve même que cette salade de fraises, elle a bienvenue. Alors après, je pense à une recette qui fait ma maman. Et que, en fait, par temps des chaleurs comme ça, elle arrange un peu cette salade de fraises de façon différente. Donc, elle la rend encore plus, on va dire, glacée. Qu'est-ce qu'on va faire? On va préparer, on prend du yaourt entier. Oui. Et on va prendre du yaourt qu'on va mixer avec du miel, hein, de la menthe et des glaçons. Mix, vous allez voir, mix, ça fait vraiment une crème assez dense. Ça ne fait pas de la glace, mais ça fait une crème très dense.
Ça fait une espèce de milkshake.
Non, c'est plus épais qu'un milkshake.
D'accord.
Parce qu'on a un yaourt bien condensé. Donc, on la prend, on la met pendant une petite heure, pas plus. Hein, il faut qu'elle reste moelleuse. Donc, une petite heure dans le congélateur. À partir de ce moment-là, on part sur la salade des fraises. Mais ma maman, ce qu'elle fait, elle les fait mariner, les fraises. Donc, elle les coupe. Vous les coupez soit en lamelles, soit en morceaux. Vous les faites mariner dans du sucre, du jus de citron. Et elle rajoute toujours des fleurs de camomille. Alors, les fleurs de camomille, soit vous prenez un sachet de camomille et vous mettez ce qu'il y a à l'intérieur. Soit, franchement, aujourd'hui, on les trouve un peu partout et surtout dans tout ce qui est magasin bio. Cette camomille va rafraîchir encore plus la fraise. Elle va donner un goût un peu particulier. Donc, on a un côté de glacé avec le yaourt au miel et menthe. On a les fraises qui sont marinées avec ce petit goût de camomille. Et maintenant, il nous reste quoi? Il nous reste à avoir quelque chose de croquant par-dessus. Donc, je vous propose de faire un crumble. Quand je dis crumble, en ce moment, quand je fais la cuisine, tout le monde me dit « Oh !» Quand je poste mes recettes sur les réseaux, on me dit « Oh là là là, il fait chaud !» J'ai pas envie d'allumer le four. C'est vrai que le four donne encore plus chaud. Mais vous savez qu'on peut faire le crumble aussi, on peut le préparer et le faire dans un poêle. Donc vous allez juste mélanger de la farine avec du beurre demi-sel, du sucre roux, vous mettez de la cannelle, de la noix de muscade, ça c'est ce que j'aimais moi, vous pouvez mettre du gingembre, enfin les épices, les cinq épices, les épices que vous aimez, vous allez bien mélaxer le tout et vous posez tout ça une petite demi-heure au frigo pour que ça prenne bien. Vous allez allumer votre poêle, vous la faites bien chaude et vous jetez par-dessous. Vous savez, le crumble, c'est émietté. Donc, vous émiettez par-dessus et vous verrez qu'elles vont dorer très vite et vous avez un crumble sans allumer le four. Maintenant, on passe au dressage. Dans une coupe, on va rajouter cette crème glacée yaourt et menthe. On va mettre les fraises, auront donné leur goût, leur jus surtout. On va les mettre par-dessus. Ça va être quelque chose vraiment des juteux. Et par-dessus, on donne ce côté ce peps croquant avec, avec votre crumble, tout simplement aux épices.
Voilà, la fameuse recette de David Crumble, les fraises de Louana Belmondo aujourd'hui. Ah, je ne sais pas ce qu'en pense Nathalie, mais avant de nous dire, écoutez la recette de Jean-Sébastien Petit-Demange.
Alors, écoutez...
Qui va jouer sur quoi ?
C'est très amusant parce que, en fait, comme on a parlé de champignons de Paris juste avant et que vous avez des fraises dans votre frigo, ça m'a fait penser également à une salade qui va vous surprendre.
Champignons-fraises ?
Qui va être excellente et vous allez m'en dire des nouvelles parce que c'est totalement surprenant.
Non, mais c'est ça ?
Et on n'imagine absolument pas qu'on puisse faire une salade avec des champignons et de la fraise. Vous allez d'abord préparer une vinaigrette de fraises. C'est-à-dire que vous allez prendre deux, trois petites fraises, comme ça, que vous allez tailler en mirepoix, en tout petits cubes. Vous allez les mettre dans, allez, un petit peu de vinaigre de cidre. Et puis, vous n'allez pas mettre d'huile, parce qu'on va faire une vinaigrette légère. Vous allez juste rajouter un peu d'eau. Vous détendez tout ça, fraises, vinaigre de cidre et eau. Vous ajoutez un peu de piment d'Espelette, du poivre du Moulin et une pincée de fleur de sel. Vous réservez, vous avez votre vinaigrette. Ensuite, vous prenez une belle salade romaine ou des sucrines que vous allez disposer dans une assiette. Et puis, vous allez laver vos fraises, laver vos champignons et vous détaillez tout ça en lamelles. Alors, je ne vais pas vous dire de passer les fraises à la mandoline parce que ça ne va pas être possible, ça va faire une purée. Mais enfin, vous faites des tranches de fraises plutôt fines. En revanche, les champignons, vous prenez des gros champignons de Paris et vous les passez à la mandoline. Vous allez avoir des tranches ultra fines. Vous allez poser ça sur vos sucrines ou vos feuilles de salade romaine. Vous allez mettre, allez, on va dire, un petit peu de fleurs de sel, un petit tour de moulin à poivre vite fait. Si vous avez quelques feuilles de basilic, vous les posez comme ça sur votre... Et vous nappez délicatement avec votre vinaigrette, vinaigre de cidre, fraise. Et vous allez voir que ça va vous faire une entrée ultra fraîche pour peu que vous ayez mis pendant une grosse demi-heure vos assiettes au frigo. C'est frais,
audacieux,
c'est original. Et vous allez voir ce mélange un peu terreux, le goût du champignon est très fruité, qui est surprenant, totalement étonnant et drôlement bon.
Nathalie, à ma droite, casaque bleu ciel, toque noir. À ma gauche et à la corde débordant, casaque bleu marine, toque blonde. Louana contre Jean-Seb. C'est le début de la semaine. Nathalie, c'est vous qui allez donner le ton à ce qui va se passer dans les jours à venir. Qui va prendre la tête d'entrée de jeu ?
D'entrée de jeu, eh ben, pour moi, ce sera la recette de Jean-Sébastien.
Oh, bon, bon, bon. Elle l'a fait ! Elle l'a fait ! Cette salade de champignons, c'est vrai que c'était très original.
C'est sympa.
Oui, voilà.
Moi, je n'avais jamais entendu parler de ce mélange. Vous bien, vous connaissiez, Nathalie ?
Pas du tout, mais je pense qu'on pourra essayer, à mon avis.
Très honnêtement, les deux recettes sont attestées. Faites-les, essayez ça et dites-nous, rappelez-nous au 3210 pour nous dire ce que vous en avez pensé. Ça nous intéresse toujours de savoir ce que vous faites avec ce qu'on vous raconte. Victoire de Jean-Sébastien, salade de champignons de Paris et de fraises. C'est 1-0. Je ne peux rien vous dire d'autre. Nathalie.
On est que lundi.
Nous ne sommes que lundi. Et ce regard carnassier de Louana Belmondo indique que demain est un autre jour. Nathalie, nous allons vous offrir, grâce à ce défi frigo, une montre RTL, grâce aux éditions Hachette. Un guide du routard de votre choix. Non, mais une montre RTL.
Signé par Jean-Sébastien.
Et un guide du routard signé par Jean-Sébastien, si vous le souhaitez.
Ouais.
On sent la fan s'exprimer, si je peux dire.
Oui.
Et grâce à Paris, je t'aime.
Rajouter, on sent la femme de goût.
Écoutez bien. Nathalie, grâce à Paris, je t'aime, en plus des Paris Pass Libre qui vous ouvriront les portes de musées et de monuments, tout en vous donnant accès aux transports en commun et à une croisière sur la Seine, vous allez gagner 3 nuits à l'hôtel Odéon. Cet hôtel de charme à 2 pas du jardin du Luxembourg et de l'Odéon, le célèbre théâtre où brilla Sarah Bernard. Et après, place à la culture et à la gastronomie. Paris, je t'aime organisera pour vous, avec le Cheese Geek, une dégustation de fromage et de vin. Vous allez retrouver Paris Je T'aime sur les réseaux sociaux. Et vous savez quoi ? Si vous le souhaitez, Nathalie, vous pouvez emmener Jean-Sébastien.
Je crois qu'il y en a un qui ne va pas forcément être ravi.
Regarde pas. Vous faites ce que vous voulez avec votre salade de champignons et de fraises. Et vous nous revenez quand vous le voulez. On vous embrasse, on vous souhaite de belles vacances.
Merci beaucoup, merci à tous. Et bisous à tous ceux qui m'auront reconnu ce matin, les cousins, les copains, les amis, tout le monde, la famille surtout.
Ah ben nous,
et à toute l'équipe de la vieille Perrotine qui est en cuisine.
Nous aussi, on vous a bien reconnu.
On vous avait reconnu dès le départ, hein, vous inquiétez pas. Pour l'ancien défi frigo à Louana et Jean-Seb, c'est très simple, 3210 par téléphone ou 64 900 par SMS avec le mot régal.
11h-12h30, RTL vous régale.
Et RTL vous balade en région Picarde ce matin, enfin ce midi même, où on va vous parler d'une spécialité. Je sais que vous adorez ça, Jean-Sébastien.
J'adore la ficelle
Picarde. C'est la ficelle Picarde. Colbert Gatté est avec nous. Il est le président de la confrérie de la ficelle Picarde. Bonjour Colbert.
Bonjour.
Et bienvenue sur RTL. Je voudrais pas réveiller une vieille polémique.
Ah oui, c'est une vraie polémique avec la ficelle Picarde.
Bah justement, qui est l'inventeur de cette ficelle Picarde au final?
Alors, l'inventeur de la ficelle Picarde, c'est monsieur Marcel Lefebvre et avec son compère Louis Pollen.
D'accord, du restaurant Joséphine.
Alors, Marcel Lefebvre, je crois, si mes souvenirs sont bons, c'est le restaurant Le Joséphine.
Voilà. Parce qu'il y a un vrai débat sur la paternité de la ficelle Picarde. On coupe court, c'est lui, et point à la ligne.
Ce qui est intéressant, c'est que la ficelle Picarde, c'est entrer dans le patrimoine Picard. C'est plutôt récent comme recette, en fait.
La recette est des années 50. Hein.
Voilà. Et alors,
est-ce qu'on peut expliquer à tous ceux et à toutes celles qui, en France, ne connaissent pas la ficelle Picarde et qui ne sauraient même pas à quoi ça ressemble, de quoi il s'agit?
Oui, alors donc, l'explication de la ficelle Picarde, c'est une crêpe, du jambon, une duxelle de champignons et échalotes.
Voilà.
Avec de la crème fraîche.
Et l'élément clé de tout ça, c'est la duxelle de champignons.
Ouais. Voilà, la duxelle de champignons.
Alors, y en a qui mettent des champignons émincés.
Voilà, c'est notre recette, champignons émincés et échalotes émincées. Trop fin quand même.
Voilà, qu'est-ce qui fait une belle duxelle? Comment on rate ou comment on réussit cette duxelle de champignons?
Il faut qu'elle soit cuite pas trop à point, puisque après c'est encore réchauffé. Il faut mieux que ce soit un petit peu sous les dents quand on la mange.
Ça croque un peu.
Sente un peu la fermeté du champignon et des échalotes.
Faut de la mâche, comme on dit.
Voilà.
Ouais. Quel jambon?
Jambon blanc. Hein.
Évidemment. De la béchamel ou pas?
Non.
Oh. Ah ben non, mais je me fais l'avocat du diable.
Vous allez me faire mettre en colère.
Non.
Uniquement de la crème fraîche.
Que de la crème fraîche.
Comment? Les échalotes, ils sont cuites en premier, ouais, avec un fond de beurre, bien pour les faire blanchir.
Ouais.
Et après, on incorpore les champignons.
D'accord.
Et bon, tout ça, Colbert, on laisse bien refroidir. Et une fois que c'est bien refroidi, on ajoute la crème fraîche.
Colbert, je vais le dire du bout des lèvres. C'est une question qui me taraude. Un peu de champignons, un peu de fromage râpé ou pas?
Oui, non, pas à l'intérieur. Hein. Oui. Le fromage râpé vient après quand elle est bien roulée, alors, en forme d'un gros cigare.
Ouais. Voilà. Très bien, plat populaire, plat économique.
On peut le refaire simplement à la maison, c'est facile, non?
Ah oui, c'est facile. Hein.
Ah oui.
Tout ça, la recette est expliquée sur notre blog.
Je vais aller dès que je rentre.
Délicieux. Le blog de la confrérie de la ficelle Picarde, confrérie créée en 97, qui regroupe des passionnés de la restauration qui défendent et font découvrir la ficelle Picarde, en protégeant évidemment cette fameuse recette originale.
Ouais, elle n'est pas protégée.
Oh non, mais on va dire qu'elle l'était.
Oui,
vu qu'on vient de la donner. Monsieur le Président, permettez-moi que je vous appelle comme ça. Merci beaucoup. On vous souhaite un très bel été et vive la ficelle Picarde.
Merci à vous et bien le bonsoir.
Ah bah écoutez, il est midi 20, donc si vous voulez. Merci Colbert Gatté, à bientôt.
RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
Alors, autant on a fait un saut de puce entre Paris et la Picardie aujourd'hui, autant pour terminer RTL vous régale, on va vous emporter très loin. Jean-Sébastien, destination ?
La Nouvelle-Zélande. Parce que nous avons commencé cette émission en parlant agneau et en parlant mouton. Qui dit mouton et agneau, dit Nouvelle-Zélande. Il faut savoir quand même que chaque année, il y a 22 millions... Enfin, chaque année. Chaque année normale, dans le monde d'avant, 22 millions...
de voyageurs orientent leur patogas vers les 4 étoiles de la Croix du Sud néo-zélandaise. C'est un pays qui fait partie du trio de tête en matière de satisfaction de vie, et ça se sent. Ça se sent dès qu'on arrive à l'immigration. Vous savez, c'est toujours un peu l'épreuve compliquée. Là, non. Les contrôles, certes, sont stricts, ils sont menés avec tact, ils sont menés avec beaucoup de gentillesse, et ils mettent à l'aise dès qu'on descend de l'avion, même après 24 heures de vol. Un voyage en Nouvelle-Zélande, vous devenez un peu l'héritier des Polynésiens qui sont venus coloniser au XIe siècle les deux grandes îles avec leurs pirogues. Et puis, il y a eu tous les grands navigateurs qui ont jeté l'ancre là-bas. Abel Tasman en 1642, James Cook, l'amiral d'Entrecasteaux. C'est d'ailleurs grâce au capitaine Cook qu'on a su que ce pays comptait deux îles principales et opposées. L'île du Nord, au nord, île fumante avec sa cohorte de volcans, ses forêts subtropicales. Et puis au sud, l'île du Sud, qu'on appelle aussi l'île de Jade, qui est plus grande avec ses échines, ses crêtes enneigées, ce qu'on appelle les Alpes néo-zélandaises. Et puis, à chaque fois, lorsqu'on arrive aux antipodes, vous le savez, Jean-Michel, il faut s'habituer parce que forcément, hein, les saisons sont inversées. Donc quand le printemps fleurit chez nous, l'automne déplume là-bas les contrées, et inversement, le Père Noël troque son manteau de fourrure pour des tongs. Mais surtout, en Nouvelle-Zélande, ce qui est flagrant, c'est une nature qui l'emporte sur l'humain. Il y a 4,5 millions d'habitants, il y a 45 millions de moutons en Nouvelle-Zélande. C'est une terre de paysages totalement époustouflants. Vous avez des montagnes qui succèdent aux volcans, vous avez des geysers, des fjords, des glaciers, des sources à n'en plus savoir qu'en faire, un pays où la faune endémique est omniprésente, où la végétation est tantôt méditerranéenne, tantôt tropicale, parfois carrément alpine au sud. C'est un pays qui est totalement ahurissant, encerclé par la mer, avec des kilomètres de plages, de criques, de falaises. Tout est carte postale là-bas, tout est décor de cinéma. Pas étonnant que Tolkien y a planqué la quête de l'anneau, pas étonnant que Tolkien y fasse habiter les hobbits dans cette terre du milieu.
RTL vous régale jusqu'à 12h30. Jean-Michel Zeka.
Merci d'avoir passé la fin de matinée avec nous sur RTL. Que retiendrons-nous de ce lundi 10 août qui nous emmenait en Picardie? Mille et une choses, mais nous retiendrons surtout la victoire de Jean-Sébastien Petit-Demange dans ce qui était le premier défi frigo de la semaine. Louana remet son titre en jeu une nouvelle fois. Et dès demain midi, nouveau défi frigo, 32-10 ou 64-900. Demain, nous vous emmenons direction l'Ardèche. Et arrêtez avec cet éventail. Vous écoutez RTL.
Il est en train de... Voilà, je
dans
suis
la chaleur
Cléopâtre.
De ce mois d'août, il est midi et demi. À demain.